Bon, alors, je ne vais pas remercier les organisateurs parce qu'en fait, je n'étais pas invitée. Alors, bon. Bon, mais bon, tout d'un coup, ils ont pensé que je pouvais peut-être raconter quelque chose d'intéressant. Alors, donc, j'ai quelques petites projections, mais qui vont vous montrer qu'en fait, tout ce qui a été évoqué ce matin, on peut le retrouver de façon plus ou moins directe dans l'expérience française, évidemment dans un contexte totalement différent. Donc, ce que je vais vous faire, c'est un résumé très rapide de ce qu'on a pu faire en France, mais en faisant une synthèse, et d'abord en disant ce que j'entends par une action politique. Et c'est la politique au bon sens du terme. C'est-à-dire que ça veut dire avoir une stratégie qui soit orientée vers des objectifs précis et qu'on sache, on sache pour celle-là céder des pouvoirs, des différents pouvoirs. Alors il y a le pouvoir administratif, politique, mais il y a aussi le pouvoir des professionnels. Et être, tout ça doit être mis ensemble et ensuite, ou en même temps plutôt, parce qu'en général, quand on fait un plan, qu'on veut savoir s'il a un impact, il faut être en mesure d'évaluer cette action avant même de l'avoir entreprise. C'est-à-dire qu'il faut concevoir l'évaluation et il faut aussi savoir d'où l'on part. Et évidemment, la France, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas le Tchad. Et il y a eu quand même énormément de changements en France entre les années 75 et 2015. J'ai pris cette période parce qu'il se trouve que j'avais été amenée à réfléchir sur cet espace de temps. Et donc, il y a eu des changements énormes dans les pratiques de soins. Si on pense par exemple à la péridurale qui n'existait quasiment pas en 75, maintenant, quasiment 90% des femmes accouchent avec une péridurale, si on a le temps de le remettre. Il y a eu des modifications sur le plan institutionnel. On a mis en France depuis quelques années des plans de santé publique, ce qui n'existait pas avant. On n'avait pas de politique de santé publique inscrite dans la loi et on a mis en place ce genre de choses avec des indicateurs pour mesurer l'impact des actions décidées dans ce plan. On a eu donc la loi hospitalière, la loi sécurité sociale, etc. On a eu des changements démographiques, comme vous pouvez les imaginer. Donc on a quand même passé de 52 millions à 63 millions d'habitants, avec toujours environ 800 000 naissances, des taux de mortalité infantile qui sont passés de 15 à 4 pour 1000 naissances vivantes. Et nous, notre mortalité maternelle, elle était d'environ 28 pour 100 000 naissances dans les années 70, et elle est passée à 10 actuellement, ce qui est, bon, évidemment, c'était déjà très bas. Mais c'est d'autant plus difficile d'avoir des progrès quand on est très bas. Ce qui paraît un peu contradictoire avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les pays à très haute mortalité, où on espère que ça va diminuer dès qu'on aura mis en place une stratégie efficace et adaptée aux conditions locales. Mais bon, c'est quand même ce qui s'est passé. Et donc, comment faire pour, dans cette situation-là, mettre en place des travaux sur la mortalité maternelle? En fait, il faut être poussé par le contexte, et en particulier par le contexte international. Et nous, en France, on a commencé à faire ce genre de choses quand on a eu l'occasion, dans le cadre de l'Europe des Six, vous voyez, c'est très loin, de mettre en évidence le fait que dans ce qu'on considérait la mortalité évitable, qui était un moyen d'évaluer la qualité des soins dans nos pays développés, la mortalité maternelle était un décès évitable. Qu'on ne devrait plus en avoir dans nos pays, compte tenu de tout l'accès généralisé aux soins, notamment en femmes, en France, où la grossesse est prise en charge complètement. Et donc, on ne devrait plus avoir de mort maternelle. Et nous, en France, on n'y avait pas une très bonne situation par rapport aux autres Européens. Donc déjà, pression internationale et importance des comparaisons entre les pays. Et ça, je crois que c'est toujours valable et qu'il ne faut jamais l'oublier, qu'il faut toujours y revenir. Donc, on a essayé de savoir si vraiment c'était la réalité ou pas. Donc, on a mis en place, effectivement, une première enquête, l'enquête Ramos, qui sont des procédés d'enquête en population pour avoir une vraie estimation de la mortalité maternelle, qui sont toujours utilisables, qui peuvent se faire actuellement dans tous les pays, avec des moyens, évidemment. Il fallait aussi comprendre pourquoi. Et là, ce qui a été important, c'est qu'on a pu se servir de l'expérience anglaise sur l'expérimentation de leur enquête confidentielle et qu'on a décidé de l'appliquer à la France. Alors là, ça a été assez combatif, parce qu'il y avait une moitié des obstétriciens, il faut le dire, qui étaient contre. Parce que, de toute façon, on allait aller juger, évaluer des choses qu'on ne connaissait pas, et que, de toute façon, ça ne servirait à rien. Alors, bon, on a quand même eu, à ce moment-là, un concours de circonstances qui a été favorable, parce qu'il y a eu un soutien politique au niveau du cabinet du ministre, qui n'était pas le hasard, puisque c'était un président du collège, qui était en même temps conseiller du ministre. Et donc, ça a permis de pousser un peu l'expérience, et que ce qu'on avait expérimenté au niveau favorable de quelques régions puisse progressivement être élargi au niveau national. Alors, ensuite, maintenant je passe tout de suite à la fin des affaires. Est-ce qu'on a à peu près réussi? Alors, évidemment, c'est toujours à moitié plein, à moitié vide. On a quand même, parce qu'on a mis en évidence une partie importante de soins non optimaux, notamment dans une cause qui était une spécificité française, si on peut dire, c'était l'excès de mortalité par hémorragie du postpartum, ce qui n'était pas le profil des autres pays européens. Donc ces particularités françaises concernant les causes d'hémorragie ont finalement alerté les praticiens. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y a eu une pression internationale, il y a eu le rôle politique, pour une fois, de la Direction générale de la Santé et du cabinet du ministre de la Santé, et il y a eu aussi la pression de certains professionnels impliqués dans l'obstétrique, essentiellement les anesthésistes-réanimateurs, la Société française d'anesthésie-réanimation, et une partie du collège, qui donc progressivement ont vraiment joué un rôle important pour développer cette affaire. Et d'ailleurs, le collège, saisi par le ministère à la suite des mises en évidence que nous avions faites des morts évitables, du rôle des hémorragies dans cette mortalité, s'est mis en situation de définir un premier ensemble de règles de pratique clinique. Ça a été en 2004. Ça a été révisé en 2014, parce que les choses ont quand même beaucoup évolué depuis. Et en particulier, elles ont évolué parce qu'on a pu développer des recherches sur ce problème des hémorragies, pas seulement effectivement dans la mortalité, mais aussi dans la morbidité, et qu'on a montré qu'en France, il y avait un effet délétère de l'usage de l'ocytocine favorisait l'hémorragie quand on ne faisait pas de délivrance dirigée. La France ne connaissait pas cette pratique alors qu'elle était recommandée par l'OMS. Enfin, on la connaissait, mais elle était assez peu appliquée depuis plus de 10 ans. Donc, voilà. Et les conséquences de tout ça, c'est qu'on a quand même obtenu une baisse de la mortalité maternelle malgré une augmentation de l'âge moyen aux naissances, alors que dans beaucoup d'autres pays, comme les Pays-Bas, les États-Unis, ils ont une augmentation de la mortalité maternelle. Donc nous, le fait que ça ne baisse plus beaucoup, c'est quand même un succès, car elle pourrait augmenter. Mais pour l'instant, elle n'augmente pas. Alors les conséquences, pour les femmes, une baisse de la mortalité par hémorragie due à l'atonie à Turin. On a mis aussi un peu le doigt sur les césariennes indues, parce que les césariennes en tant que telles, si elles sont sans indication justifiée, augmentent la mortalité et multiplient par 3 le risque pour les femmes, ce qui n'est pas négligeable. Pour les pratiques de soins, bon, évidemment, il y a des changements qui ont eu lieu sur l'utilisation, la bonne utilisation de l'ocytocine pour accélérer le travail et en même temps le développement de la délivrance dirigée. De nouvelles règles de pratique clinique. Et pour la gouvernance, le taux de mortalité maternelle, mais pas seulement. Maintenant, il y a aussi un nouvel indicateur qui s'appelle l'admission en unité de réanimation et de soins intensifs, qui est utilisé de façon à peu près régulière par le ministère de la Santé pour évaluer les progrès de notre système depuis 2014, en s'appuyant sur les données du PMSI. Voilà, donc en fait, excusez-moi, notre expérience montre qu'il a fallu un concours de circonstances, c'est certes favorable, mais qu'il a pu se jouer grâce à une stratégie politique voulue, avec des objectifs précis. Il y a eu une pression internationale, c'était le moment où l'OMS avait recommandé qu'on s'occupe de la santé maternelle. Il y a eu une volonté politique des professionnels, du moins d'un certain nombre. Il y a eu évidemment la conjonction favorable avec une équipe de l'INSERM qui pouvait faire ce travail et qui était aussi indépendante sur le plan à la fois politique et professionnel. Et l'association avec les professionnels a été quand même indispensable. Et bon, on a pu aussi mobiliser quelques ressources. Donc vous voyez que tout ce qui a été évoqué ce matin est applicable. Mais l'important, c'est de bien prendre connaissance au départ de la situation dans laquelle on est. Et ça, seule l'analyse qualitative peut le faire. Et il y a deux sortes d'analyses qualitatives. Il y a celle qui est dans l'établissement de soins avec ces revues de morbi-mortalité qui permettent de voir exactement, précisément ce qui a péché dans le système. Et il y a ce que je prône aussi, qui est l'enquête confidentielle au niveau national, avec le recul, la distance, qui permet de mieux voir si, au niveau du pays, on peut édicter ou faire changer certaines choses et faire adopter ces changements, comme les règles de pratique clinique, par exemple, par l'ensemble de la communauté. Voilà, je vous remercie de votre attention.